Les Rituels saison 4, la suite.
C'est pas extérieur, j'ai l'impression que c'est que tous les films que j'ai écrits viennent de quelque chose qui était déjà chez moi, déjà en moi. Et alors ce que je dis souvent, c'est que c'est pas nécessairement des sentiments qui ont été vécus ou des scènes qui ont été vécues, mais c'est des sentiments qui ont été éprouvés. Moi j'arrive à écrire quand j'ai éprouvé quelque chose, mais c'est pas pour ça que ça peut se passer dans un contexte totalement différent ou avec des personnages qui n'ont rien à voir avec moi. Donc moi j'ai l'impression de partir de moi. Il y a des choses qui parlent à l'intérieur. Alors quand je dis parle, parfois ça crie, parfois ça pleure, parfois ça rigole. Mais en tout cas ça existe.
À 8h du soir ou 8h du matin, assis par terre ou dans un cahier, devant un café froid ou sur un clavier, comment écrivent-elles? Comment écrivent-ils? Avec Les Rituels, un podcast créé pour Cinévox, j'ai voulu interroger les auteurs et les autrices du cinéma belge. Le temps d'un coup de fil à l'ancienne, sans vidéo, sans caméra, ils et elles reviennent sur la place que l'écriture prend dans leur vie et dans leur quotidien. J'ai compris que c'était comme ça que je fonctionnais, que j'avais besoin d'aller sculpter tous les jours. En mai dernier sortait Le Paradis, premier long-métrage de Zeno Graton, histoire d'amour incandescente, poème cinématographique illustrant la passion et la soif de liberté de ces deux héros, Joe et William. Découvert à Berlin, 6 fois nommé au Magritte du cinéma, le film vient combler ce que le jeune cinéaste appelle ses images manquantes. Avec Zeno Graton, on a parlé de sa première rencontre avec l'écriture, puis avec le cinéma, de ses habitudes, de son rapport au traitement, de sa relation à l'inspiration, de la façon dont on vit avec ses personnages et dont on s'entend avec eux. Bonjour Zeno.
Bonjour Aurore.
Alors j'ai une première question pour vous, est-ce que vous écrivez en ce moment ?
Oui. J'écris en ce moment.
Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette écriture du moment?
C'est encore assez frais et pour le moment, c'est encore un peu à l'étape de rêve et de... J'imagine beaucoup de choses, je rêve à beaucoup de choses. Ce qui est filtré vers la feuille ou vers l'ordi, quoi, c'est des choses, parfois, je ne sais pas exactement si je vais les garder ou pas. Là, je suis vraiment dans cette phase exploratoire où tout est possible et où tout est génial, mais où, en fait... Rien n'est totalement fixé, donc ça demande parfois une gymnastique un peu émotionnelle de s'il y a eu des belles journées avec des illuminations, bah, le lendemain, de potentiellement les supprimer, ou l'inverse, parfois des trucs qu'on trouvait nuls, et en fait, ça devient le centre de... Je sais pas. Donc, pour le moment, c'est un peu compliqué pour moi d'en parler, mais...
Alors, on va faire un petit retour en arrière. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez écrit?
Oui, en primaire, moi, j'écrivais des poèmes. Là, j'essaie de me souvenir du plus ancien souvenir d'écriture. Mon institutrice voyait que je faisais ça pendant que les autres étaient... Enfin, en gros, j'avais un peu d'avance parce que ma mère m'a appris à lire avant d'entrer en primaire. Et en première, deuxième primaire, j'écrivais des poèmes et mon institutrice me mettait un peu à l'écart dans le sens où elle... parfois, il y a des exercices que j'avais fini plus vite et donc elle me faisait écrire des poèmes. Voilà.
Ça a donc commencé par la poésie et comment est-ce que ça s'est déployé pour arriver au cinéma ?
Non, mais après, alors à l'école, après, adolescent, j'aimais beaucoup le français, j'aimais beaucoup les rédactions, j'aimais beaucoup les histoires, j'aimais beaucoup inventer. Et puis, en fait, avec des amis, quand j'étais en primaire, on a réalisé 2 petits courts-métrages. C'était un ami dont le père travaillait à la RTBF. Et en fait, il avait une petite caméra et un petit programme de montage. Et en fait, nous, à l'époque, ça nous semblait déjà fou, alors que aujourd'hui, il avait juste une petite caméra et un programme de montage. Mais en gros, pour nous, c'est comme si son père avait le Graal pour l'accession au cinéma. Et donc, on pouvait monter nous-mêmes les images. Et donc, on a écrit, on a joué et on a monté ce film. Et c'est un film d'horreur. C'est une histoire un peu de revanche. Et voilà. Et en fait, ça... J'avoue, c'était vraiment intéressant. On a gagné un prix dans un petit festival pour jeunes qui s'appelle Caméra aux jeunes. Et en fait, je pense que ça a généré plein de réalisations dans ma tête, de mode, on voyait des adultes nous reconnaître, nous parler. Nous, on avait vraiment fait ça pour rigoler. Et puis, il y a eu l'INSAS, quoi.
À quel moment est-ce que vous vous êtes dit que ça allait être votre métier? Est-ce que c'est dès ce premier court-métrage? Et comment est-ce que ça a mûri en vous?
Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que... Il y a une espèce de foi et de naïveté de la jeunesse. J'ai pas l'impression d'être vieux, mais j'ai l'impression d'avoir perdu un petit peu de cette foi parfois, ou en tout cas de cette naïveté. Là, par exemple, je suis en train de revisiter le processus d'écriture d'un long. Et en fait, je me souviens très bien de l'écriture du premier où il n'y avait pas de questions. En fait, c'est juste écrit, tu fais ton long, c'est parti. Et en fait, je pense que par rapport à est-ce que ça va être mon métier, il n'y a jamais eu vraiment de questions. Et c'était quelque chose que je pratiquais, que j'aimais beaucoup les films. Ça faisait partie de ma vie, c'était mon univers, c'était le cinéma. Et j'envisageais un peu de rien faire d'autre. Alors après, Ce qui s'est passé quand je suis sorti de l'école, c'est que j'ai tenté le concours de l'INSAS en images et que j'ai pas été pris. Mais en fait, finalement, il y a eu un Deus ex machina qui a fait que j'ai revu Juliette Vandermal, qui allait être mon amie. Et en fait, on avait passé l'examen d'entrée ensemble et elle m'a dit qu'il y avait une personne dans la classe qui n'était pas venue, qui avait été prise, mais qui avait été prise aussi à l'IAD et qui était partie à l'IAD. Et en fait, moi, quand j'avais été chercher mes résultats, il m'avait dit que mon dossier était super, etc., mais que voilà, c'était peut-être un peu tôt. C'est de cette naïveté que je parle. C'est-à-dire que je les ai rappelés en mode, bon, il y a quelqu'un qui n'est pas venu, est-ce que moi je peux venir? Et en fait, j'ai eu quelqu'un de l'administration au téléphone un peu étonné de mon coup de fil. Et finalement, ben, littéralement le lendemain, j'ai reçu un coup de fil en me disant que mes cours commençaient à 8 heures, quoi, que j'étais pris. Donc voilà, tout a été un peu comme ça, parce que je pense que quand tu traverses l'INSAS, c'est plus une question. Tu fais les cours, tu fais du cinéma, quoi, c'est comme ça. Et puis quand, par contre, à la sortie, oui, il y a eu un peu ce moment très difficile de la sortie, de qu'est-ce qui va se passer maintenant, etc. Mais j'ai vraiment eu la chance, je pense, d'avoir mon film de fin d'études qui a été reconnu. Et je pense que ça m'a donné l'énergie après pour écrire un cours. Et en fait, les choses se sont enchaînées. Je ne me suis jamais posé des grandes questions existentielles sur s'il fallait continuer. Je pense que j'ai vraiment eu la chance, en fait, de ne pas avoir trop l'obligation de me poser ces questions.
Vous avez suivi un cursus en images. Est-ce que vous pouvez revenir sur votre première expérience d'écriture? C'était pour le film de fin d'études?
En fait, il y a eu un film avant le fin d'études. J'avais envie de filmer Damien et Judith, qui sont les deux acteurs du film, Judith Ouliquet et Damien Chapelle. Ils étaient dans la même classe à l'INSAS, la même que moi. Et moi, je passais beaucoup plus de temps du côté INSAS théâtre, parce qu'en fait, je les trouvais beaucoup plus rigolos. Et il faut aussi dire que, en fait, l'INSAS cinéma, il y a un côté un peu rigide et notamment un peu sexiste. Et en fait, c'est en train de sortir très fort là dans l'actualité, mais ça se passe déjà dans les écoles de cinéma, que ce soit au niveau des professeurs ou au niveau des élèves entre eux. Et je pense que les cibles, c'était les femmes, mais c'était aussi moi. Je veux dire, j'étais très très identifié comme quelqu'un qui aimait les garçons. Enfin, c'est quelque chose dont je me cachais pas. Et en fait, à l'INSAS cinéma, c'était pas si évident. Je vais dire ça comme ça. Et surtout en images, où en fait, il y avait beaucoup. Les chefs-op ont une tendance d'être un peu plus viriliste qu'en réalisation, par exemple. Il y en a, c'est encore des amis, etc. Mais je veux dire, du coup. Je passais beaucoup plus de temps à l'INSAS Théâtre. Ils avaient des fêtes absolument dingues. Je m'entendais bien vraiment avec eux. Et en fait, du coup, bah, Damien et Judith faisaient partie de ce groupe d'amis. Et je les trouvais fascinants. Et en fait, le moteur d'écriture, ça a été vraiment d'abord de vouloir les filmer eux. Je pense qu'il y avait quelque chose, même presque documentaire, de vouloir garder une trace. Et c'était un amour qui m'inspirait beaucoup, qui m'interpellait beaucoup, que je trouvais très, très fort. Et je me disais, mais il faut absolument les filmer. Et donc j'ai écrit un petit truc et c'était en fait un kino cabaret pendant le Brussels Short Film Festival. Et en fait c'est justement Juliette qui m'a dit vas-y on fait un kino chacun, on est chef op chacun sur le kino de l'autre. Donc on s'est lancé un peu ce défi. Elle a fait un super film qui était d'un plan séquence dans un train abandonné, c'était incroyable. Et moi j'ai fait un film qui s'appelle Les Corps Conducteurs. En fait moi je me suis pas senti la légitimité de le diffusé. Je pense que c'est un an après, au moment des dépôts du Brussels Short Festival de l'année d'après, que je me suis dit, mais en fait, pourquoi j'enverrais pas tout bêtement mon kino? Et en fait, il a été pris. Et puis, il a été pris au FIF, ce qui fait que j'étais en troisième année à l'INSAS et il y avait mon film qui commençait à être dans des festivals, quoi, quand même assez reconnu. Et puis, je sais que voilà, il a plu aussi. Donc, quand je parlais de chance, il y a aussi ce truc-là, ce film-là, il m'a bien aidé aussi. Mais donc, voilà, la première écriture vraiment qui a été concrétisée un peu, ça a été celui-là.
Alors, on va se pencher maintenant sur la place que l'écriture prend dans votre quotidien. Et pour commencer, est-ce que vous écrivez tout le temps ou est-ce que c'est par phase? Et à quel moment est-ce que vous préférez écrire?
J'écris beaucoup parce que j'ai l'impression de ne pas être, j'allais dire bon, mais j'ai moins d'instinct d'écriture que d'instinct au plateau par exemple ou au montage. Et donc du coup, il faut que je travaille beaucoup pour arriver, je pense, à des résultats équivalents de personnes qui sont plus spontanées et qui travaillent plus vite, quoi. Je dirais que je passe beaucoup de temps et que j'ai fait beaucoup de couches. Comment expliquer? Au-delà d'un devoir, c'est vraiment une pratique un peu que j'ai essayé d'identifier comme une pratique quasiment artisanale. Dans le sens artisan, qu'un artisan, je pense qu'il a l'ego complètement de côté et l'humilité nécessaire pour se dire qu'il vente, qu'il pleuve, que t'es mal dormi ou pas, tu vas dans ton atelier tous les jours. Et je sais que tout le monde n'est pas du tout comme ça, et c'est ça qui est très riche. Mais moi, j'ai compris que c'est ça qui fonctionnait. C'était d'aller sculpter, entre guillemets, tous les jours, avec parfois des résultats mieux que d'autres. Mais c'est ma manière, quoi. C'est ma manière.
Et à quoi ressemble votre atelier, justement?
Ben là, je suis devant. J'aime bien coller au mur des images qui sont un peu liées à ce que. Est-ce que je travaille? Mais en fait, là, j'ai emménagé au moment de la prépa de mon long métrage, Le Paradis. Et du coup, je n'ai pas vraiment décoré les choses. Et ce que j'ai décoré, c'était pour accompagner un petit peu le tournage et la post-prod du Paradis. Donc, c'est des choses qui ne sont pas très en lien avec mon écriture maintenant, mais c'est des choses qui sont très liées à qui je suis. Bah, y a un poster de Patti Smith, il y a un poster de Ronit Elkabetz, qui est une actrice israélienne absolument merveilleuse, qui est décédée en 2016, qui est vraiment une des plus grandes actrices du monde pour moi. Il y a une affiche d'un film, de Jean Genet, non, mais c'est le film de Fassbinder qui s'appelle Querelle, adapté du livre de Jean Genet. Bah, il y a une imprimante, il y a quelques bouquins qui me... En fait, il y a des bouquins talismans qui fait qu'à chaque fois que je relève les yeux, je peux buter sur des bouquins qui me rassurent ou qui m'inspirent ou qui me donnent de la force. Il y a un cadeau de mon chef opérateur, Olivier Bunjing, qui est un espèce d'objet collector de Happy Together, de Wong Kar-wai, avec plein de cartes postales un peu vintage, avec des images du film. Il y a des fleurs séchées qu'il faudrait d'ailleurs que je jette à la poubelle, mais en même temps, je les trouve jolies. C'est pour ça que je pense qu'inconsciemment, je les laisse là. Il y a des bouquins, il y a mes carnets, une pellicule photo, une bougie. Voilà, mon atelier est dans ma chambre. Alors, je suis bien triste parce que avant j'avais un bureau, mais en fait, l'immeuble a été vendu. Et là, maintenant, on a dû partir. Du coup, bon, depuis le début de l'écriture, je suis dans ma chambre. Mais en fait, il y a quelque chose aussi d'intime pour ces premiers espaces de création, ces premiers instants de la création qui me va aussi, d'être dans ma chambre. Et par contre, je fais un point d'honneur à... Est-ce que quand je me lève, je ne dois pas voir mon bureau? Donc, j'ai un peu orienté mon lit pour que... Voilà, quand je suis dans mon lit en train de lire ou de regarder un film, je ne vois pas mon bureau, c'est important. Et vice-versa, je veux dire, de mon bureau, je ne vois pas mon lit. Ça, c'est important.
C'est donc un espace physique autant que mental, où vous avez vos talismans qui vous rassurent et qui vous inspirent, mais quels sont vos outils très concrets d'écriture?
Aïe, aïe, aïe. C'est tout en même temps. J'ai un carnet dans lequel j'accumule des notes, mais j'ai aussi dans mon téléphone un onglet avec... des notes, quoi, et je note des trucs là tout le temps. Parce que parfois, c'était dans le tram, t'es machin, t'es en train de penser. Et en fait, ça me permet de prendre les trucs un peu à la volée, et après, je les traite, je les trie, je les sélectionne, je crée des dossiers. Enfin, c'est un peu une usine à gaz, mais je pense qu'il n'y a que moi qui sais comment accéder un peu à tout ce truc. Ouais, un carnet, des notes sur mon téléphone, parfois des petits post-it. Par exemple, là, j'ai plusieurs post-it sur mon bureau avec des noms, avec des mots. Et en fait, c'est un peu pour avoir ces mots qui me frappent l'imaginaire en permanence, enfin, comme pour pas oublier, voilà, un peu des mantras. Et ça dépend des phases. Là, par exemple, il y en a que j'ai enlevé pour laisser place à d'autres mantras sur lesquels je sais que je dois me concentrer. Donc voilà, je dirais ça, des carnets, des notes et des petits post-it. Et mon ordi, évidemment. Je travaille d'abord sur Word, en fait, où je fais des... Ça y est, on ouvre la boîte à secret, mais c'est pas des secrets. Mais ce que je veux dire, c'est que enfin, voilà, du coup, je note sur Word des choses, et puis j'essaie de les structurer en fait en début, milieu, fin. Et ça, c'est, je me souviens très bien, c'est David Lambert qui m'avait dit, mais peut-être qu'on élaborera ça un peu plus tard, mais qu'en gros, c'est très important d'avoir un début, un milieu, une fin, quoi qu'il arrive. Que c'est ça sur lequel il faut se concentrer, et que ça sert à rien d'essayer de parfois de trop creuser certaines choses si en fait. Ça fait 3 mois que t'as pas de fin, ça sert à rien. Ça, c'est quelque chose dans les documents que je fais, un peu les premiers documents. J'essaie toujours d'avoir un peu un semblant de début, un semblant de milieu, un semblant de fin. Et puis une structure, un squelette. Et après, quand j'ai l'impression d'avoir un squelette assez abouti, enfin, là, peut-être j'entre déjà trop dans les détails, je sais pas.
Non, non, c'est très intéressant, on peut continuer.
quand le squelette me satisfait, je passe par a priori une espèce de traitement assez sec pour que ce soit lisible aussi, parce que c'est la phase où j'ai envie d'échanger et elle va arriver bientôt, je pense. Et après, je revisite un petit peu le processus de l'écriture, et je pense que quelque chose que je faisais avant, c'était d'écrire vraiment beaucoup de traitements, quoi. Vraiment écrire un traitement, puis de revenir, d'avoir des retours, puis d'y repenser, puis de refaire des traitements, alors qu'en fait, j'ai l'impression que là, cette fois-ci, j'ai l'impression que passer au dialoguer un peu plus vite va m'aider. Donc là, je suis en train de questionner un peu cette chose-là. Mais d'abord, je fais d'office un petit traitement, que les gens le lisent, que ce soit la production ou quelques alliés, voilà. Et après, en fait, de ne pas traîner, entre guillemets, sur cet objet. Il peut être très trompeur parce qu'il y a de la littérature dans le traitement. Alors qu'en fait, le scénario oblige à écrire des images et des sons. Ça me réjouit plus. En fait, tu peux moins tricher parce que tout doit être vu et être entendu. Enfin, tout doit être audible et visible, même l'invisible et même l'absence, hein, bien sûr. Mais avec un traitement, tu triches. Tu triches longtemps.
Donc, si je comprends bien, vous connaissez la fin dès le début ou en tout cas une fin. Mais est-ce que vous avez des astuces qui vous guident pour ne pas vous perdre en chemin ?
Là, par exemple, pour le premier long, au moment où j'ai commencé vraiment à perdre pied, on a fait appel à quelqu'un qui est venu en coécriture. C'était Clara Bourreau, qui est une scénariste française, qui est venue coécrire avec moi à un moment. Et c'était très nécessaire. Et là, du coup, je questionne un peu dans ma boîte à outils. Là, je sais qu'il y a cette possibilité-là. De toute façon, c'est trop tôt pour inviter qui que ce soit parce que je dois d'abord écrire un objet qui soit justement lisible, même par quelqu'un. Et j'ai vraiment envie de ça parce que je sens que ça part de quelque chose de personnel, etc. et que j'ai pas envie de coécrire tout de suite. Mais par contre, je sais que voilà, si j'ai besoin à un moment, bah, boum, il y a une personne formidable avec qui j'écris un film dont je suis très content et qui m'a déjà témoigné de son envie de retravailler avec moi. Donc finalement, c'est chouette. Ça, c'est un vrai outil, un vrai guide. Et puis même, c'est quelqu'un qui va m'accompagner, je pense, dans cette écriture. Si c'est pas co-scénariste, ce sera de toute façon autre chose. Donc, et ça, on se l'a déjà dit aussi. Après, en termes d'outils, bah, les relectures des alliés, quoi. Ça, c'est clair que c'est quelque chose de très important pour moi. C'est à la fois des retours qui t'aident dans guider où, vers où tu écris, mais c'est aussi des moments d'ancrage. C'est les premiers spectateurs du film, en fait. Donc, les émotions que ça suscite chez les personnes comme ça qui lisent pour la première fois, ça devient des guides littéraux, en fait, de se dire, bon, bah, OK, ça, ça crée ça, ça fait 3 fois qu'on me le dit, donc c'est bon. Et en fait, ça ancre et parfois, ça réjouit, ça donne beaucoup d'espoir et de motivation et de... Voilà, et c'est pour ça qu'il faut trouver des personnes très bienveillantes parce que, entre guillemets, si c'est mal fait, ça peut blesser. Ça peut être un moment très dangereux aussi. Après, ben, il y a les labs, hein, il y a les workshops. Enfin, moi, j'ai fait une résidence assez magique pour mon premier long qui s'appelle la Ciné Fondation, qui est la résidence du Festival de Cannes. On était logés dans un grand appart et en fait, l'idée, c'est voilà, d'avoir un accompagnement et un soutien logistique pendant 4 mois et demi. Par une instance hyper reconnue. Donc ça, en termes de donner le feu, donner la foi, ça m'a aidé plusieurs fois dans des gros moments de doute, de me dire, bon, bah, je suis passé par la Ciné Fondation, c'est clair que ça peut aider en termes de financement. Pourquoi abandonner? Si moi, j'abandonne, bah, c'est... alors qui continue? Enfin, je ne sais pas comment dire, mais j'étais entré à la Ciné Fondation avec vraiment un traitement assez léger. Donc en fait, moi, quand j'y étais, j'avais encore beaucoup, beaucoup à faire, là où d'autres étaient arrivés avec déjà un scénario assez ficelé, etc. J'ai vachement pris de temps encore après ma résidence pour finir, et il y a plein de moments de doute où vraiment le fait d'avoir fait cette résidence m'a aidé. Et c'est quelque chose que je recommande absolument, et il y en a d'autres. Hein. Je pense au Groupe Ouest, aux Ateliers Grand Nord, je pense... au Torino Film Lab. Et il y a même un Queer Palm Lab qui vient d'ouvrir. Alors, c'est les journalistes là, qui ont créé la Queer Palm, qui ont créé un lab d'accompagnement de 1 an de projets de films qui ont des thématiques queer. Et le parrain de cette première édition, c'est Lucas Dunt. Ça, par exemple, je trouve que c'est un vrai outil parce qu'on sait que... Enfin, on sait... En fait, en tout cas, l'industrie... sexiste, hein, dont on parlait tout à l'heure, elle est aussi plutôt homophobe, même si c'est souvent un peu tacite ou un peu hypocrite, dans le sens où en fait les films qui se font, puis après qui filtrent et qui arrivent à sortir en salle, bah, il n'y en a pas beaucoup qui ont des thématiques LGBT, et en fait il y a un vrai, voilà, il y a une vraie ostracisation des films avec ces thématiques-là, et donc ce genre de lab, eh ben, il est hyper important parce que il va permettre justement à des jeunes réalisateurs, réalisatrices, d'avoir la foi et d'être soutenus par, du coup, ben voilà, Lucas, qui a la reconnaissance qu'il a aujourd'hui, qui permet d'ouvrir certaines portes à d'autres gens. Et en fait, voilà. Donc, je trouve ça formidable. Parce qu'aussi, ça te permet de te confronter avec des pairs, mais où il n'y a pas d'affect. Donc, moi, j'étais dans cette résidence avec un Japonais, un Turc, un Hollandais, un Flamand, enfin... Enfin, c'était vraiment une tranche de vie formidable. Là, l'écriture, après, elle est imprégnée de tous ces moments et ça devient... Ouais, ça devient un truc joyeux, t'as envie de montrer ton film aux autres, c'est con, mais moi j'étais tellement heureux de voir après les films des gens avec qui j'ai vécu pendant 4 mois et demi, des choses aussi intenses, bah, après j'ai vu leurs films au cinéma, et c'était trop beau quoi, c'était... Donc voilà.
On a bien vu que ces soutiens et ces regards extérieurs ont toute leur importance, mais est-ce que vous avez aussi besoin d'une discipline plus intérieure, et laquelle?
J'essaie d'abord de me lever, d'avoir mangé, et puis après de partir en écriture. Je suis plus du matin, ouais. Et l'après-midi, j'ai tendance à faire d'autres trucs, à me nourrir un peu ailleurs, et faire des exercices physiques. Ça, par contre, je le recommanderais jamais assez, mais en tout cas, pendant l'écriture, c'est statique, quoi. Du coup, le temps, il y a aussi un rapport au temps qui se transforme quand je suis en écriture, et donc j'oublie parfois de bouger pendant des heures. C'est même pas genre, c'est pas bon pour ton corps, ça, limite, on s'en fout. C'est juste que c'est pas bon pour ton moral, voilà, et ta psyché de pas faire de sport, quoi. C'est un cercle vicieux, ça se répercute sur l'écriture en disant que t'as l'impression que tu fais de la merde, alors que Juste, aujourd'hui, t'es pas sorti. Vous me demandiez la question de la discipline. Bah, une des grandes disciplines que je me suis vraiment mise, c'est le sport, quoi.
Avant que ce travail d'écriture ne s'enclenche, comment vient l'étincelle qui donne envie de s'y plonger?
Alors, je pense qu'il y a, et tout le monde emploie ce mot, etc., mais j'ai l'impression qu'il y a un peu une romantisation de la question de l'inspiration. La métaphore que j'utiliserais, c'est pas nécessairement un truc qui est soudain et très lumineux et une étincelle, c'est plus... Moi, en fait, j'ai l'impression il y a des choses qui sont là tout le temps, et que si je les écoute, c'est de ça que je veux parler. C'est pas extérieur, j'ai l'impression que c'est que tous les films que j'ai écrits viennent de quelque chose qui était déjà chez moi, déjà en moi. Et alors, ce que je dis souvent, c'est que c'est pas nécessairement des sentiments qui ont été vécus ou des scènes qui ont été vécues, mais c'est des sentiments qui ont été éprouvés. Et en fait, je pense que la qualité de l'écriture, enfin, moi, j'arrive à écrire quand j'ai éprouvé quelque chose, mais c'est pas pour ça que que ça peut se passer dans un contexte totalement différent ou avec des personnages qui n'ont rien à voir avec moi. Donc, moi, j'ai l'impression de partir de moi et partir de qui je suis. Et en fait, qui je suis, bah, à un moment, y a des choses qui, comme je disais, qui parlent à l'intérieur. Alors, quand je dis parle, parfois ça crie, parfois ça pleure, parfois ça rigole. Mais en tout cas, ça existe. Voilà, je parlais tout à l'heure de ce rapport au machisme, qui, je pense, est quelque chose qui m'a bougé, enfin, qui m'a impacté. Alors, c'est la vie, quoi. Je veux dire, parfois tu souffres, parfois, en tout cas, toutes des choses qui ont bougé à l'intérieur de moi, à un moment, ça va vouloir sortir. Et donc, par exemple, J'ai parmi les hommes, mon premier court-métrage, ça parle vraiment de cette injonction à la virilité. Puis, j'ai continué à explorer, enfin, je veux dire, en grandissant, mes origines tunisiennes, qui en fait ne sont pas vraiment totalement visible, et on appelle ça du white passing, ce qui fait que j'ai pas été bougé, j'ai pas été percuté de la même manière dans mon corps et dans qui j'étais que par le patriarcat, disons pur. Je pense que la question du racisme, elle est arrivée en voyant mes cousins, mes frères, enfin, quand je dis mes frères, c'est mes frères de cœur, mon père, se faire emmerder, quoi. Et en fait, ça, c'est arrivé plus tard. Et donc, le moment où j'ai commencé à vouloir travailler sur les IPPJ, sur le paradis, ben, c'est parti un peu de tout ça. En fait, c'était un peu la somme de toutes ces identités. Voilà, à un moment, arriver à adresser la question de la masculinité dans un espace où il n'y a que des garçons, mais du coup, en ayant fait un pas en avant par rapport à Jay, en se disant, bon, ben maintenant, est-ce qu'il n'est pas temps de proposer des masculinités alternatives au lieu de se plaindre qu'il n'y a que des connards? Est-ce que maintenant, ce n'est pas ton rôle au cinéma de montrer des garçons qui ont le droit d'être tendres et qui en fait le sont. Et en fait, je pense que c'est aussi l'inspiration d'une nouvelle génération. Moi, je pense que voilà, la sociologie, le temps autour de moi m'inspire aussi beaucoup et je pouvais pas faire sans. Les IPPJ, ça veut dire les garçons, mais ça veut aussi dire le racisme systémique dans la justice. Et ça, c'est quand même documenté, il y a des recherches, ça existe et c'est réel. Disons que l'étincelle, ça a été un moment d'articuler, mais c'est lent, hein. Bah, comme je vous ai dit au début. Je crois que je suis super lent, mais qu'en fait j'ai besoin de d'abord traverser tout ça, de me poser ces questions, et puis en fait du coup d'abord c'était l'histoire de quelqu'un qui sort d'IPPJ, et puis en fait après j'ai lu une thèse d'une criminologue belge, Alice Jaspard, sur les IPPJ, et puis en fait quand j'ai lu sa thèse, pour nourrir la backstory du personnage principal, je me suis rendu compte qu'en fait c'était un milieu super cinématographique. Peut-être que votre étincelle était là, elle était à ce moment-là. Je pense qu'à la fin du livre d'Alice, j'ai compris que ça allait être ce lieu, que ça allait être une histoire d'amour, parce que Jean Genet était déjà là, et que Jean Genet est un auteur voilà, qui a travaillé dans les années 40-50 autour de l'amour en prison, lui-même homosexuel, dans une époque où c'était complètement interdit, et qui avait vraiment une posture, dans sa littérature et dans sa vie d'ailleurs, complètement avant-gardiste, c'est-à-dire qu'il n'en avait rien à foutre, quoi, des lois, on va dire, mais dans tous les sens du terme, parce qu'il était criminel, évidemment, en étant qui il était, hein, juste en étant homosexuel. Et donc, en fait, la question aujourd'hui de Genet, de comment la relier avec l'époque contemporaine. Mais ça, je pense que d'être passé par l'INSAS, ça a quand même laissé des traces et que c'est une école avec une tradition documentaire hyper importante. C'est une école qui a été créée par des documentaristes purs et durs, qui étaient eux-mêmes les enfants héritiers de Henri Storck, l'héritage belge qu'on a. Je pense qu'il y a des pays avec des courants différents qui inspirent les réalisateurs et les actrices différemment. En tout cas, moi, je sais que. Bah, je sais que ça me parle parce qu'en fait ça me donne du sens et que je lis le cinéma à la question sociale, en fait, que le cinéma est un vecteur de changement sociétal. Après, il faut rester humble, le cinéma ne change pas le monde, mais je veux dire, le cinéma change les esprits, et ça c'est vrai. Et que voilà, à un moment c'était important de visibiliser des espaces qui sont invisibles, en fait, dans cette société, personne ne sait vraiment ce qui se passe là-bas. Ça aussi, ça m'a donné vraiment beaucoup d'énergie, et puis comme je vous le disais un petit peu hors antenne, là je suis très content parce que le film il a été
plébiscité par l'administration. Alors, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Mais en gros, moi, je trouve qu'il est assez critique pour moi. Mais du coup, là, il y a une instance juridique qui est en fait un petit peu en antagonisme avec l'administration pure et dure. Et en fait, il utilise le film pour les montrer aux jeunes et les éduquer, les sensibiliser aux questions que le film traite, c'est-à-dire l'homosexualité, l'homophobie, mais aussi la question de leur placement. Du coup, ça leur permet de libérer la parole des jeunes, d'avoir des grands échanges sur comment faire mieux, comment réformer. Ça, disons que c'est vraiment l'alignement total là, qui s'accomplit après un an en gros d'exploitation du film. Là, ça se clôture bien.
Une fois que ces sentiments éprouvés se sont cristallisés à travers des personnages, est-ce que parfois vous avez l'impression de vivre à côté d'eux? Ou en d'autres termes, est-ce que l'écriture peut être quelque chose qui vous obsède?
Mais grave.
Grave. C'est... Alors, moi, je m'entends bien avec eux, là. Donc, ça va. Je pense que c'est un peu inconscient, mais je m'entoure, littéralement. Hein. Je m'entoure de personnes qui m'inspirent. J'ai discuté de ça l'autre jour avec une amie par rapport à... Évidemment, l'imaginaire que tu crées qui va t'accompagner tout le temps, hein, mais la nuit, le métro, avant, avec les gens, tout seul, tout le temps. Il faut bien choisir, en fait. J'ai choisi des gens et un sujet qui me donnait de la force. Donc oui, je vis avec eux. Et je pense aussi que je fais des films pour faire exister des images manquantes. En tout cas, ça a été très, très clair pour le premier, de faire exister cette image manquante de cet amour et de cette poésie, de cet amour entre deux garçons mélangé avec l'arabité aussi, la musique, voilà, des choses qui vraiment coexistaient pas en fait en moi et qui grâce au cinéma, en fait, grâce à l'écriture, peuvent coexister. En gros, là par exemple, je crée des choses qui me manquent. Donc, c'est pas juste être bien avec eux, c'est aussi j'en ai besoin, j'ai besoin de vous là, j'ai besoin que ça existe parce que si ça existe pas, ça me fait trop souffrir, et tandis que la fiction permet de faire exister des choses et de les rendre réelles. Et c'est ça, c'est de la magie, en fait. C'est de la magie blanche, parfois noire. Mais voilà.
Quel est, d'après vous, votre pire ennemi dans l'écriture et votre meilleur allié?
Je vais réfléchir une petite seconde.
Je pense que le pire ennemi, c'est les dogmes d'écriture, je dis. Bon, de toute façon, tous les dogmes en général, mais... Moi, en fait, j'étais en image, donc j'ai pas vraiment eu de cours de scénario, etc. J'ai lu 2-3 bouquins, ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis, j'y crois vraiment à ce truc de la règle de... Il faut connaître les règles pour les oublier. Parfois, quand j'entre un peu trop dans le dogmatisme, par sécurité, hein, par peur, tout d'un coup, c'est là que ça devient mort. Donc voilà, je dirais que ça, c'est un peu mon pire ennemi. Et puis, mon plus grand allié... je pense que c'est la discipline, en fait, parce que j'ai envie de déromantiser un petit peu l'écriture, parce qu'il y a souvent l'image un peu du poète maudit dont on est tous un peu héritiers, et aussi la romantisation du génie qui est très illusoire. Et je suis plus team discipline, quoi. J'ai entendu une fois une interview magnifique de Kurosawa qui parlait de ça. Lui, il écrit tous les jours, il ne sait pas ce qu'il va écrire, en fait. Et il cherche. Je trouve que ça apporte aussi une grande humilité par rapport à tous les métiers qui nous entourent. C'est-à-dire qu'en fait, je sais pas comment le formuler, mais je n'ai pas envie de me sentir complètement hors du monde avec la posture de l'écriture. C'est-à-dire que, bien sûr, il faut faire un pas de côté pour pouvoir écrire, mais j'ai envie de... Parce qu'on écrit... Moi, en tout cas, j'écris sur les gens, et donc, en fait, j'ai envie de vivre aussi comme les gens. Tout bêtement, en fait, j'ai envie d'avoir une discipline. Et je sens que quand je ne l'ai pas, quand ça dérive, j'ai plus d'horaire, je mange mal, j'écris n'importe comment, je ne dors plus. Fin... Alors, parfois, c'est des étapes un peu nécessaires parce qu'il y a des choses trop douloureuses ou trop difficiles. Et parfois, ce n'est pas traitable tel que je me l'étais dit. Et ça, je dois l'accepter aussi. Mais par contre, j'ai toujours en tête que c'est exceptionnel et que ça ne va pas durer. Et que ça va revenir à un moment, une forme de régularité. Mais ne fût-ce que même par rapport au plateau, par rapport au montage, je veux dire, c'est quand même un métier de super discipline, quoi. Enfin, le fait d'avoir fait ce tournage du premier long, c'est une endurance, c'est un marathon, quoi. Tu peux pas être à côté, enfin, tu peux pas être pas discipliné, quoi, en gros. Je trouve.
J'ai une dernière question pour vous, Zeno. Pourquoi écrivez-vous?
Parce que j'aime ça. Et ça, je pense que j'essaye que ce soit pour ça que j'écris. La discipline, c'est juste un rail, en fait. Mais en fait, quand je suis sur les rails et que ça roule, vraiment, c'est génial, quoi. Ça m'ouvre l'esprit, ça me rend curieux, ça me fait aller lire, ça me fait aller
interviewer des gens, ça me fait aller faire des immersions dans des espaces, ça me fait vivre, quoi. Ça me fait goûter à l'expérience de la vie. Et parce que moi, mon écriture, elle se passe aussi en dehors du bureau. Elle se passe aussi avec les gens, enfin, surtout même. Donc voilà, ça me fait vivre.
Merci beaucoup, Zeno.
Merci, Aurore.
Merci mille fois à Zeno Graton de nous avoir confié ces rituels. Et merci à vous de les avoir écoutés. Si vous les avez aimés, n'hésitez pas à les liker, les commenter, les partager et leur mettre plein de belles étoiles. Dans le prochain épisode, rendez-vous avec Claude Schmitz,